à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Benoît Messignac et je vais vous parler de mon travail sur le rôle de l'océan dans le changement climatique actuel. Je suis géodésien et climatologue au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale à Toulouse. Je travaille sur le rôle de l'océan dans le changement climatique depuis le début de ma thèse, c'est-à-dire depuis maintenant 10 ans. En récompense de mes travaux, j'ai reçu cette année le prix Christian Le Provost, qui est le prix d'océanographie de l'Académie des sciences. Je vais vous parler ici de mes travaux et du rôle que joue l'océan dans le changement climatique. Dans le changement climatique actuel, l'océan joue un rôle essentiel, qui est celui de stocker et de redistribuer l'énergie associée au changement climatique. Pour bien comprendre cet aspect de l'océan, il faut revenir au bilan énergétique de la Terre. Comme vous le savez, la Terre reçoit son énergie du Soleil. Cette énergie solaire pénètre les couches superficielles de la Terre que sont l'atmosphère, la cryosphère, les continents et l'océan. Dans ces différentes couches, l'immense majorité de l'énergie, qui est captée par la Terre, est transformée en chaleur. Puis cette chaleur est mélangée, stockée et transportée par les circulations océaniques et atmosphériques. À terme, elle est réémise vers l'espace, par rayonnement infrarouge. Aujourd'hui, du fait des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, la Terre reçoit plus d'énergie du Soleil que ce qu'elle n'émet vers l'espace. En effet, aujourd'hui, la Terre reçoit environ 342 watts par mètre carré du Soleil, tandis qu'elle ne réémet vers l'espace que 341 watts par mètre carré. Il y a une différence d'environ 1 watt par mètre carré entre ce qu'elle reçoit et ce qu'elle émet. Cette différence, c'est ce qu'on appelle le déséquilibre énergétique de la Terre. Puisque la Terre reçoit 1 watt par mètre carré de plus que ce qu'elle ne renvoie vers l'espace, elle se met à stocker ce 1 watt par mètre carré d'énergie. Cet excès d'énergie pénètre les différentes composantes du système climatique. Un peu plus de 90% de cette énergie pénètre l'océan, tandis que la petite portion restante vient réchauffer la cryosphère, l'atmosphère et les continents. La raison qui fait que quasiment toute l'énergie va dans l'océan est que l'océan a une capacité calorifique bien supérieure à celle de la cryosphère, l'atmosphère ou les continents. En pénétrant l'océan, l'énergie le réchauffe et le fait dilater. Elle fait ainsi augmenter le niveau de la mer. En pénétrant la cryosphère, l'énergie vient faire fondre la banquise, les glaciers de montagne et les calottes polaires. Elle fait augmenter le niveau de la mer encore plus vite. En réchauffant l'atmosphère et les continents, elle modifie le cycle global de l'eau et de l'énergie, et modifie ainsi les normales saisonnières des précipitations et des températures. En bref, cet excès d'énergie de 1 watt par mètre carré est à l'origine même de ce que l'on nomme populairement les changements climatiques, ou encore ce que les médias appellent le dérèglement climatique. Ce déséquilibre énergétique de 1 watt par mètre carré est donc une variable fondamentale du changement climatique, et il est absolument essentiel de le mesurer précisément si l'on veut comprendre la physique qui est derrière le changement climatique. Mesurer précisément le déséquilibre énergétique de la Terre est un enjeu que les climatologues poursuivent en fait depuis longtemps. Dès les années 80, peu après la parution du rapport Charney, qui est une sorte de rapport du GIEC avant l'heure, la NASA proposait déjà de mesurer ce déséquilibre énergétique par satellite. L'idée était d'envoyer en orbite 4 instruments pour mesurer en permanence le rayonnement reçu du Soleil et celui qui est émis par la Terre. Cette mission a en effet été réalisée, sous le nom de HERB, puis CERES, et envoyée dans l'espace. Elle s'est révélée très efficace pour mesurer les variations du déséquilibre énergétique de la Terre dans l'espace et le temps. En revanche, elle n'a jamais pu estimer précisément la valeur absolue du déséquilibre énergétique. La meilleure estimation qu'elle nous ait donnée jusqu'à ce jour est une valeur de 2,2 plus ou moins 2 watts par mètre carré. Cette large incertitude de 2 watts par mètre carré est due à des difficultés de calibration absolue des différents instruments. C'est un peu plus tard, dans les années 90, que les océanographes ont commencé à s'intéresser à ce problème. En effet, puisque plus de 90% de l'excès d'énergie dû au déséquilibre énergétique de la Terre entre dans l'océan sous forme de chaleur, il est possible d'évaluer précisément ce déséquilibre énergétique simplement en mesurant les variations du contenu en chaleur de l'océan. Les océanographes ont donc proposé d'évaluer ces variations du contenu en chaleur en s'appuyant sur les mesures in situ de température océanique. Or, il se trouve que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la température de l'océan est mesurée de manière répétitive. En effet, on la mesure par des campagnes océaniques, par des mouillages permanents, par des réseaux de bouées, mais aussi par des sondes jetées à l'arrière des bateaux marchands, le long des principales routes commerciales. Les mesures sont nombreuses et couvrent une bonne partie de l'océan depuis 1970. Mais très peu de ces mesures descendent malheureusement en dessous de 700 mètres de profondeur. De plus, la quasi-totalité de l'océan austral n'est pas échantillonnée. Les premières estimations du déséquilibre énergétique de la Terre par cette méthode océanique se révèlent décevantes. Les meilleures estimations, données à l'époque par un Américain de la NOAA nommé Sidney Levitus, montrent une incertitude de plus ou moins 2 watts par mètre carré, comme pour la méthode par satellite. Dans les années 2000, le démarrage du grand programme international Argo a changé la donne. Argo est un réseau de plusieurs milliers de flotteurs autonomes qui mesurent la température de l'océan jusqu'à 2000 mètres de profondeur tous les 10 jours. Les flotteurs envoient leurs données par satellite au centre de traitement opérationnel pour permettre un suivi continu de la température de l'océan. Depuis 2005, le réseau Argo a atteint une couverture globale, avec une résolution spatiale de l'ordre de 4 degrés et une résolution temporelle de l'ordre de 10 jours. Ces performances inédites ont permis d'affiner significativement les estimations du déséquilibre énergétique de la Terre par la méthode océanique. Aujourd'hui, les mesures Argo indiquent que le déséquilibre énergétique de la Terre s'élève à 0,7, plus ou moins 0,5 watts par mètre carré. On atteint donc maintenant des précisions de l'ordre de plus ou moins 0,5 watts par mètre carré dans l'estimation du déséquilibre énergétique. Ce progrès est considérable. Mais ce n'est pas encore suffisant. On aimerait aller plus loin. On estime qu'il faudrait aujourd'hui une précision de 0,1 watts par mètre carré sur le déséquilibre énergétique si l'on veut pouvoir y observer et y détecter l'effet de phénomènes naturels tels que les événements climatiques El Niño ou tels que les éruptions volcaniques. 0,1 watts par mètre carré, c'est aussi l'ordre de grandeur de précision que l'on voudrait obtenir dans le futur proche pour pouvoir détecter sur le déséquilibre énergétique de la planète l'effet des politiques de réduction de gaz à effet de serre. Il existe aujourd'hui une méthode alternative à Argo, qui est prometteuse et qui pourrait bien atteindre ces précisions. C'est une méthode développée depuis 5 ans seulement. Elle s'appuie sur le bilan du niveau de la mer pour estimer les variations de contenu de chaleur de l'océan. C'est sur cette méthode que je travaille justement, en concurrence avec une équipe américaine. Comme vous le savez, le niveau de la mer augmente pour deux raisons. D'une part, parce que les glaces fondent et font augmenter la masse de l'océan. Et d'autre part, parce que la chaleur qui pénètre l'océan réchauffe l'océan et le fait dilater. Le principe de la méthode sur laquelle je travaille est simple. L'idée est de corriger la hausse du niveau de la mer des variations de masse de l'océan, pour en déduire la dilatation de l'océan. Ensuite, à partir de la mesure de cette dilatation de l'océan, on estime directement les variations du contenu en chaleur de l'océan. Cette méthode est rendue possible aujourd'hui car les satellites géodésiques permettent des mesures très précises de la hausse du niveau de la mer et de la masse de l'océan. En effet, nous mesurons la hausse du niveau de la mer par satellite depuis plus de 25 ans maintenant. Mon équipe à Toulouse est une des équipes mondiales les plus reconnues dans ce domaine. Avec la dernière génération de satellites altimétriques de haute précision, la série Jason, conçue par le CNES et la NASA, nous obtenons une précision de 0,3 mm par an sur la hausse du niveau de la mer globale depuis 2001. Par ailleurs, depuis 2002, nous mesurons aussi la masse de l'océan par satellite, avec une précision similaire de l'ordre de 0,4 mm par an. Cette mesure se fait par gravimétrie spatiale, avec la mission GRACE, lancée en 2002, qui mesure les variations temporelles du champ de gravité de la Terre. En inversant ces variations de champ de gravité, nous déduisons les variations de masse à la surface de la Terre, et en particulier celles de la masse de l'océan. Mon travail, au cours des dernières années, a été de calculer, puis de combiner ces estimations de la hausse du niveau de la mer et de la masse de l'océan pour estimer la dilatation de l'océan. Les dernières estimations que l'on obtient ont été très encourageantes. Elles montrent une précision de l'ordre de 0,4 mm par an sur la dilatation globale de l'océan, avec une résolution spatiale de l'ordre de 2 degrés et une résolution temporelle de l'ordre de la semaine. en particulier à l'échelle globale. Cela permet d'évaluer le déséquilibre énergétique global à 0,77, plus ou moins 0,5 watts par mètre carré. C'est totalement inattendu. Avec une méthode indépendante d'Argo, on obtient des résultats comparables à Argo. Une précision de 0,5 watts par mètre carré sur l'estimation du déséquilibre énergétique et une confirmation que ce déséquilibre énergétique s'élève bien à 0,7, entre 0,7 et 0,8 watts par mètre carré. C'est un résultat très important, car cela permet de valider de manière indépendante les estimations d'Argo et de confirmer que le déséquilibre énergétique de la Terre est bien autour de ces 0,7 watts par mètre carré. Au-delà du simple résultat, je crois qu'il y a deux autres choses qui sont essentielles dans cette nouvelle estimation du déséquilibre énergétique de la Terre. La première, c'est la méthode. On a développé ici une nouvelle méthode qui s'appuie uniquement sur des mesures satellites qui ont été calibrées et validées par comparaison avec des mesures sol. De ce fait, ces mesures offrent une complémentarité à Argo, très intéressante. Elles sont globales, avec une répétitivité spatio-temporelle élevée. Elles assurent une mesure du contenu en chaleur de l'océan jusqu'au fond de l'océan, à 6000 mètres de profondeur. Ces caractéristiques ouvrent de nouvelles perspectives sur l'analyse du stockage de la chaleur dans l'océan et de sa redistribution. En particulier, elles devraient permettre dans le futur d'analyser précisément la redistribution spatiale de cette énergie dans l'océan. Le deuxième élément que je trouve intéressant dans cette approche par bilan du niveau de la mer, c'est l'utilisation originale que l'on y fait des mesures géodésiques. En général, les mesures géodésiques, telles que les mesures du niveau de la mer ou du champ de gravité de la Terre, sont utilisées en climat pour la surveillance des impacts du climat. On utilise par exemple l'altimétrie spatiale pour évaluer la hausse du niveau de la mer en réponse au changement climatique. On utilise les mesures du champ de gravité pour estimer les variations des stocks d'eau sur les continents en réponse au changement climatique, ou pour analyser la saturation des sols en eau, en réponse aussi au changement climatique. Ici, pour la première fois, nous utilisons ces mesures géodésiques non pas pour quantifier les impacts du changement climatique, mais pour en analyser les causes. Cette utilisation de la géodésie pour comprendre les causes du changement climatique est très originale. À ma connaissance, c'est la première fois que c'est fait. Je crois que cette approche est très féconde, et je crois qu'elle ouvre de nouvelles perspectives en sciences du climat, car les mesures géodésiques sont très précises et elles pourraient apporter de nouvelles informations pour améliorer significativement notre compréhension de la physique du changement climatique. Je crois qu'au fond, c'est cet aspect que les académiciens ont voulu récompenser en me décernant le prix Christian Leprévost. En tout cas, c'est la voie que je compte explorer dans le futur.